Avec Karine Bécart, nous recevons Marc Fesneau. Bonjour.
Bonjour.
Ministre délégué chargé des relations avec le Parlement depuis 2018. Vous êtes également numéro 2 du Modem. Beaucoup de sujets à évoquer avec vous ce matin. Je voudrais qu'on commence par la crise aux Antilles, Guadeloupe puis Martinique. La nuit de vendredi à samedi a été marquée par de nouvelles violences. Alors la contestation a d'abord visé les contraintes sanitaires contre l'obligation vaccinale pour les soignants, contre le pass sanitaire. Elle se double maintenant de revendications sociales et pour y répondre, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a proposé hier d'ouvrir le débat sur l'autonomie de la Guadeloupe. Il le fait, dit-il, à la demande des élus locaux. Hier, droite et extrême droite y ont vu un aveu de faiblesse de l'État. Marc Fesneau, est-ce que c'est une concession pour ramener le calme, ce qui pour l'instant ne semble pas fonctionner par ailleurs?
Pas du tout. Je pense que la volonté du gouvernement exprimée par Sébastien Lecornu est une volonté assez simple. D'abord, rétablir l'ordre, parce qu'au fond, vous avez raison, c'est parti de sujets sanitaires. Et par ailleurs, on a vu se développer, au-delà des sujets sanitaires et des manifestations et des points de blocage qu'il pouvait y avoir, un certain nombre de gens qui avaient des comportements qui n'étaient en rien liés à la situation sanitaire ou aux problèmes sanitaires, mais liés plutôt à des phénomènes de violence et de bandes. Et d'ailleurs, quand vous discutez avec ceux de nos compatriotes qui vivent là-bas, ils nous disent la même chose, qu'il y a des phénomènes de bandes contre lesquels il faut lutter. Donc, d'où les moyens de police et de gendarmerie qui ont été déployés sur place pour rétablir l'ordre à la Guadeloupe comme à la Martinique.
Mais l'autonomie.
J'y viens. La situation est stabilisée. Deuxième élément, il y a des sujets sociaux et économiques qui sont pas nouveaux d'ailleurs. On a, de façon structurelle, dans ces territoires, une distorsion à la fois de pouvoir d'achat par rapport à la métropole, et donc on a besoin, et un taux de chômage en particulier sur les jeunes qui est très élevé, ce qui fait que Sébastien Lecornu a proposé un certain nombre de dispositions en faveur des jeunes. C'est du long terme,
mais on voit bien qu'on n'est pas au bout.
Des emplois aidés notamment. Et puis sur la question de l'autonomie, au fond, il ne dit pas différemment de ce que nous disons dans d'autres territoires métropolitains ou ultramarins, c'est il y a un certain nombre d'élus qui disent, sur certains sujets, sur certaines compétences, on souhaiterait pouvoir les exercer en plus grande proximité. Et c'est la question qui a été élevée sur la question sanitaire, en disant est-ce que on pourrait pas, je rappelle que d'ailleurs, dans la crise sanitaire qui est à l'œuvre, il y a un certain nombre des mêmes élus républicains qui réclamaient plus d'autonomie dans leur territoire pour pouvoir mieux œuvrer en termes sanitaires.
Est-ce qu'on parle de la même autonomie là?
On parle, pour moi, et pour Sébastien Lecornu et pour le gouvernement, de la même autonomie. Sauf que
quand on parle de l'autonomie dans les régions et quand on parle d'autonomie dans une île,
mais vous avez raison, Karine Bécart, ça n'a pas la même résonance quand on parle, pour certains, quand on parle des ultramarins, des territoires ultramarins, que quand on parle de la métropole, mais au fond, c'est la même volonté qui est à l'œuvre. C'est la volonté de faire en sorte qu'on essaie de, en fonction des territoires, en fonction de la différenciation qu'on essaie de mettre à l'œuvre, de faire en sorte que l'autonomie de compétences, d'exercice des compétences. L'autonomie, c'est pas la question de l'indépendance. Je vois bien que certains veulent faire un amalgame. J'ajoute
ça va juste derrière, quand même.
Non, pas du tout, parce que j'ajoute que dans un certain nombre de territoires ultramarins ou autres, on a donné plus d'autonomie dans la gestion des compétences et que ça n'a jamais été lié avec la question de l'indépendance.
Est-ce que c'est une manière de dire aux élus de Guadeloupe, prenez vos responsabilités, arrêtez de vous tourner en permanence vers Paris?
Mais je pense, dans cette relation entre l'État central et les collectivités territoriales, en Outre-mer comme ailleurs, il faut que, à cette liberté donnée dans l'exercice des compétences, vienne faire écho une forme de responsabilité. On voit bien, par exemple, le sujet de l'eau, qui est un sujet prégnant dans ces territoires, est un sujet qui est pourtant dans les mains des élus locaux, et on voit bien que cette question n'a pas été résolue.
Ils ont les moyens de résoudre ce problème localement. Et les élus ne l'ont pas fait, c'est ce que vous nous dites.
Manifestement, c'est une compétence qui est exercée par les élus locaux, comme d'ailleurs partout ailleurs sur le territoire métropolitain. Et donc, il faut qu'on fasse en sorte que quand on a une compétence, elle soit exercée réellement et que chacun puisse prendre ses responsabilités.
Ils sont pas à la hauteur, les élus locaux de Guadeloupe, dans cette crise?
Je n'ai pas dit ça. Je dis que dans les compétences qui sont exercées par les élus, il faut qu'ils exercent pleinement leurs compétences. Quand il y a une difficulté, il faut qu'on en parle avec l'État central ou avec l'État représenté dans ces territoires. Rien n'est jamais parfait. La politique du gouvernement, parfois, il y a des choses qu'il faut ajuster. Parfois, dans la politique des collectivités locales, il y a des choses qu'il faut ajuster. C'est bien ça qui doit être à l'œuvre. Puis je pense qu'il y a un besoin de rétablir la confiance. Je n'oublie pas que c'est un territoire, et ce n'est pas sous ce gouvernement, je pense en particulier à la Guadeloupe, avec l'affaire de la chlordécone, qui a créé une relation de défiance très lourde avec l'État.
Qu'on a peut-être sous-estimé.
Et qu'on a sans doute sous-estimé à l'époque, dans les décisions qui ont été prises et qui ne datent pas de ce gouvernement. Et donc il faut rétablir aussi la confiance entre les citoyens, les habitants, les collectivités et l'État. Et c'est ça qui est à l'œuvre, me semble-t-il.
On a quand même le sentiment que, en agitant le spectre d'une autonomie, ça sert à fracturer un petit peu la classe politique guadeloupéenne, voire à faire peur à une partie des citoyens guadeloupéens. Oui ou non?
Je ne crois pas du tout. Je crois que la volonté qui s'est exprimée de la part du gouvernement est une volonté de dialogue et de dire ouvrons tous les sujets qui sont nécessaires d'ouvrir pour que l'action publique soit meilleure dans ces territoires qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et ça fait, et la partie, et la question de comment on exerce mieux les compétences de manière plus autonome est une question, me semble-t-il, intéressante à mettre sur la table.
Est-ce que le ministre doit maintenant se rendre sur place? Il a parlé longuement aux Guadeloupéens. Est-ce qu'il faut aller en Guadeloupe maintenant?
Je crois qu'il a dit, et d'ailleurs déclaré pas plus tard que ce matin dans un organe de presse, qu'il préparait une venue sur les...
C'est pas rapide, Antilles, quand même.
Et que, non, attendez, qu'il prépare une venue. Alors moi, je pense que l'idée de venir sans savoir ce qu'on y a à y dire et sans avoir dialogué préalablement et sans regarder ce qu'on veut y faire, je pense que c'est pas forcément utile. On a déjà eu des expériences de cette nature où on vient, on repart et finalement on n'a pas.
Mais c'est un problème aujourd'hui. Un ministre peut pas aller en Guadeloupe.
Non. Les conditions sont pas y aller. Il peut y aller. Il y est allé d'ailleurs à plusieurs reprises, y compris dans des phases épidémiques. Il y a pas si longtemps que ça, à vrai dire. Donc simplement pour préparer son déplacement, il est pas mal que, au fond, on puisse concerter au préalable.
Alors, Ensemble Citoyen, c'est le nouveau mouvement de la majorité qui sera officiellement lancé demain avec un meeting en soirée à Paris, à la Mutualité, qui regroupera La République En Marche, Le Modem, Horizon, le nouveau parti d'Édouard Philippe, Agir. Est-ce qu'on peut dire qu'on a là la nouvelle machine électorale du futur candidat Macron ?
On a surtout le rassemblement qui se figure, qui se rend visible de ceux et celles qui... Dès 2016, en 2017 et un peu après 2017, on choisit de se rassembler autour de la candidature, puis de l'élection et de la mise en œuvre de la politique d'Emmanuel Macron. Je trouve que ce qu'on a fait là dans ce travail de rassemblement est un travail utile. Évidemment, ça s'inscrit dans la logique de la préparation des élections présidentielles. Attendons que le président...
Et des législatives qui arrivent juste derrière.
Attendons que le président passe part de ses intentions. Mais évidemment, cette majorité, elle doit se rassembler et montrer ce qu'elle est. Et puis, évidemment, de travailler sur ce que sera la future assemblée et donc la future majorité autour du président de la République. Je rappelle simplement qu'en 2017, le rassemblement s'était opéré autour d'Emmanuel Macron, d'un parti en création qui était La République En Marche, et du Modem qui était venu s'adjoindre au mois de janvier et février, dans cette logique et dans cette dynamique. Et puis, un certain nombre de forces politiques, enfin de gens qui venaient d'autres forces politiques, je pense évidemment à Édouard Philippe, venant plutôt de l'horizon de la droite, d'ailleurs il l'avait dit comme tel, ont décidé de soutenir cette politique, au premier rang duquel Édouard Philippe, puisqu'il en a été Premier ministre de ce gouvernement. Et donc c'est bien qu'on fasse figurer les choses et qu'on puisse dans cet ensemble faire vivre à la fois vivre la diversité, mais aussi montrer la cohérence de l'engagement qui est le nôtre.
Mais comme c'est un mouvement qui est fait pour soutenir le candidat quand il se déclarera Macron, puis se partager des circonscriptions électorales dans la perspective des législatives, on a le sentiment, là encore, que c'est un nouveau mouvement qui a vocation à durer pas très longtemps.
Non, ce n'est pas la logique des choses. Il y a plusieurs temps dans notre affaire. Il y a un temps qui est le temps de la présidentielle. Il y a le temps des législatives. Et par ailleurs, il y a besoin de consolider dans le paysage politique qui n'a pas bougé au fond depuis 2016-2017. Il s'est profondément fracturé, mais il ne s'est pas réorganisé. On a besoin de réorganiser. Moi, je pense que le dépassement n'est possible que s'il y a un pôle central qui est suffisamment puissant et fort. Ce pôle central, il a historiquement, dans l'histoire récente, deux pôles qui sont la République En Marche et le Modem. Et puis, autour de cela, il y a des gens qui, sur la gauche ou sur la droite, ont envie de participer d'un rassemblement plus large. Mais il faut à la fois consolider le pôle central, et ça s'inscrit par-delà la présidentielle et par-delà les législatives.
Mais ça, c'est ce que voulait initialement François Bayrou,
dans ce qu'on est en train de construire, il y a à la fois ce rassemblement au travers d'Ensemble Citoyen, et à l'intérieur, la capacité pour Horizon et Agir, par exemple, sur le flanc droit, si on peut dire, et pour La République En Marche et le Modem, de se rassembler et d'aller plus loin dans des coopérations pour, au fond, consolider le pôle central.
En 2017, le candidat Macron avait promis l'introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives, ce qu'il n'a pas fait. C'était d'ailleurs l'un de vos combats au Modem. Emmanuel Macron disait à l'époque, la proportionnelle, ça permet des coalitions de conviction plutôt que des coalitions d'appareil. Est-ce que vous êtes en train de faire une coalition d'appareil, Marc Fesneau, avec Ensemble Citoyen?
J'ai essayé exactement, mais... Je vais le redire, d'essayer de faire la démonstration inverse, c'est-à-dire que c'est une coalition de convictions. Et c'est ça qu'on est en train de faire figurer. Donc, merci de me donner l'occasion de le redire. Et par ailleurs, je réponds sur la question de la proportionnelle.
Oui.
Je pense que c'est une question qui reste d'actualité, que je souscris pleinement aux mots qui sont ceux du président de la République à l'époque candidat, et qui sont ceux de notre famille politique, du mouvement démocrate depuis des années.
Mais d'actualité avant l'élection présidentielle de 2022, on est d'accord là maintenant.
Je ne crois pas que là on soit dans un... Mais c'est une question d'actualité au sens qu'elle doit nous préoccuper. Elle doit faire partie d'ailleurs d'un ensemble de sujets qu'on doit mettre sur la table, que sont les sujets démocratiques. Je suis à la fois ministre des Relations avec le Parlement et de la Participation citoyenne. Il me semble que ces sujets-là, la proportionnelle, elle permet à la fois de représenter la diversité des opinions et de permettre, au fond, qu'il y ait une coalition.
Nicolas Sarkozy voulait le faire, François Hollande voulait le faire, Emmanuel Macron voulait le faire.
Eh bien, peut-être que nous y arriverons dans le débat présidentiel et ensuite, c'est vrai que c'est toujours un moment Il y a le séquençage de cette affaire. Le moment où on décide de le faire est un moment important, mais je pense que cette question de la proportionnelle est répondante. Au fond, quand vous regardez quasiment dans tous les modes de scrutin, y compris pour les sénateurs, hein, la proportionnelle est à l'œuvre, il ne reste plus que l'Assemblée nationale. Et donc je pense qu'il faut qu'on travaille sur ce sujet-là.
Alors, quatre hommes pour incarner et diriger ce mouvement Ensemble Citoyen, pas une femme. Est-ce que cette erreur va être corrigée?
Mais depuis le début, alors évidemment ça n'est pas été public à date, depuis le début, nous travaillons sur une structure exécutive qui soit une structure exécutive strictement paritaire. Et donc la structure exécutive sera strictement paritaire.
Mais les présidents sont toujours observés de très près.
Mais la question, c'est le pilotage de démarrage qui est fait par les Premier ministre ancien ou actuel par François Bayrou, responsable du MoDem et le président de l'Assemblée nationale. Mais la question paritaire reste prégnante pour nous et donc il y aura bien la parité dans les instances exécutives de l'ensemble qui est créé.
Les instances exécutives, elles vont compter combien de personnes par exemple?
Est-ce que vous
savez? Une vingtaine. Donc en fait, on trouve toujours les femmes dans les masses, mais dans les postes à responsabilité,
elles
ne sont
pas là.
Mais là,
on vous dit quelque chose qui est juste. C'est qu'au fond, ça interroge à chaque fois sur la même chose, c'est-à-dire que plus on approche
des fonctions très très hautes.
Les fonctions très 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 hautes, puisque c'est l'expression que vous prenez, et moins là pour le coup la parité est à l'œuvre. Mais c'est une question sur laquelle il faut qu'on travaille. Ceci étant, reconnaissons aussi.
Quand vous dites ça, c'est une question sur laquelle il faut qu'on travaille, ça veut dire on a échoué?
Non, parce que je pense que c'est un processus en construction. Je vais vous dire pourquoi. Parce que. D'abord, quand vous regardez la majorité qui s'est constituée en 2017, elle est beaucoup plus paritaire, en particulier dans les groupes de la majorité. Quasiment dans le groupe La République En Marche, c'est la parité absolue. Vous avez trois femmes.
Mais les femmes sont absentes à l'Élysée, elles sont absentes à Matignon, elles sont absentes à la présidence de l'Assemblée nationale.
Vous avez trois femmes qui sont présidentes de commission. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'est pas encore au bout du chemin, mais on a diablement progressé depuis cinq ans en particulier, et peut-être même 10 ans quand on regarde les choses. Et donc, ça révèle ce que vous dites, je ne vais pas vous dire le contraire, mais en même temps, on voit bien qu'on a profondément avancé sur ces sujets de parité depuis 5 ans.
Organiser un meeting demain soir, en pleine reprise épidémique, est-ce que c'est Covido-compatible et Covido-responsable?
Mais on va le rendre Covido-compatible et Covido-responsable, d'abord, évidemment, de respecter les gestes barrières, et par ailleurs, la demande qui sera faite du pass sanitaire, je pense que ce qui n'est pas une obligation en tant que telle, mais je pense que c'est bien que nous donnions nous aussi l'exemple.
Vous demanderez le pass sanitaire pour rentrer, c'est ça?
Et vous refuserez l'accès à des militants qui n'auraient pas leur pass sanitaire?
Mais c'est la logique du pass sanitaire, mais je pense que ça, c'est une démarche volontaire. Et en même temps, on voit bien qu'il y a d'autres réunions publiques qui se déroulent la semaine prochaine, qui seront de même nature et sur lesquelles il faudra aussi qu'on les laisse se dérouler. Je veux dire, il faut qu'aussi le processus démocratique puisse se faire. Il y a des gestes barrières, il y a des protocoles qui peuvent être mis en œuvre et c'est ça auquel il faut faire confiance.
Marc Fesneau, vous êtes en charge des relations avec le Parlement. La cinquième vague de Covid en cours et un nouveau variant, Omicron, apparu dans le sud de l'Afrique qui est en train de se propager, ce qui pose la question de la vaccination à travers le monde, puisque tant que les taux de vaccination resteront aussi bas dans les pays les plus pauvres, de nouveaux variants vont apparaître. Nous voilà une nouvelle fois renvoyés à notre égoïsme.
Je veux dire qu'il y a deux choses dans ce que nous traversons actuellement. Il y a d'abord la vague que nous connaissons aujourd'hui en Europe, ce n'est pas une vague d'Omicron, c'est
Delta.
Une vague de variant Delta. Et donc la première chose auquel il faut qu'on essaie de faire face...
À part en Inde, pays où les taux de vaccination...
Oui, mais je vais répondre à votre question. Mais il faut qu'on fasse face, nous, à ce variant Delta, c'est la troisième dose, ou le rappel vaccinal, c'est les gestes barrières, c'est tout ce qu'on vient d'évoquer rapidement. Mmh. Il me semble que là, on a déjà ça, et ça c'est maintenant. Par ailleurs, effectivement, on a l'apparition d'un nouveau variant. Et à chaque fois, ça a été dit d'ailleurs sur votre antenne tout à l'heure, ce matin assez tôt aussi, à chaque fois, ça procède de la même chose, ça part d'endroits, de pays où le taux de vaccination est trop faible. Tant qu'on n'aura pas, et ça montre bien que les égoïsmes nationaux, dans ce sujet comme dans d'autres d'ailleurs, ne servent à rien, tant qu'on n'aura pas un taux de vaccination qui sera très élevé dans le monde et pas seulement dans nos pays qui sont au fond les plus développés de ce point de vue-là, on aura un problème parce que les variants se développent, les mutants se développent et donc à chaque fois, venant d'ailleurs, viennent des mutants. Et donc, il faut qu'on soit vigilant. Et quant à Omicron, qu'est-ce qu'on a besoin de vérifier? On a besoin de vérifier son degré de dangerosité, son degré de contagiosité. Et par ailleurs, si les vaccins actuellement à l'œuvre couvrent totalement ou partiellement ce nouveau variant. C'est ça qu'il faut qu'on vérifie. On sait qu'il faut 10 à 15 jours pour savoir et pour avoir des réponses précises à ces sujets-là. Il faut maintenant prendre des mesures de précaution à date. C'est ce qu'on fait actuellement au travers de la fermeture d'un certain nombre d'espaces aériens, enfin de frontières avec des pays qui sont manifestement les lieux, les foyers d'Omicron. Et à partir de là, on verra la stratégie qu'il faut déployer. Mais je répète, on a d'abord le variant Delta. Omicron est un deuxième sujet, mais vous avez tout à fait raison, ça pose la question de la solidarité internationale que le président de la République a portée depuis le début. Je vous rappelle que dès qu'on a parlé de vaccin, le président a dit « il faut parler des pays qui ne peuvent pas y avoir accès directement » parce que ça, c'est un élément important de la stratégie.
Mais solidarité internationale, ou est-ce qu'il faut demander à Pfizer de baisser les prix des vaccins?
Mais il faut... c'est Pfizer et d'autres, d'ailleurs, il n'y a
pas que
Pfizer.
Parce que là, c'est la troisième dose, et puis il y en a peut-être une quatrième.
Mais la solidarité internationale, elle s'exprime aussi par le fait que nous ayons les moyens, au niveau mondial, peut-être, d'apporter... produire un vaccin, ça a un coût. Faire de la recherche et du développement, ça a un coût. Ce ne sont pas des choses qui sont complètement déliées de contingences économiques. Que nous ayons une exertion, une solidarité par des moyens financiers que sont ceux de nos pays, me paraît pas illogique.
Marc Fesneau, je voudrais qu'on évoque le cas de Nicolas Hulot. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour viol et agression sexuelle après les accusations portées par trois femmes dans l'émission Envoyé spécial. C'était jeudi soir. La période concernée va de 1989 à 2001. Les faits sont couverts par la prescription. Nicolas Hulot nie ses accusations. En 2018, le journal L'Hebdo avait révélé une première affaire. À l'époque, Nicolas Hulot était membre du gouvernement. Emmanuel Macron l'avait à l'époque appelé, je cite, à tenir bon dans un moment, disait-il, difficile, sans un mot pour la plaignante. Est-ce que c'était une imprudence, voire une erreur?
Non, je ne crois pas du tout qu'il faille poser les problèmes comme ça. La difficulté dans ce genre de choses, c'est que, et je sais que vous partagez sans doute ce point de vue, ça ne peut pas être sur des plateaux télévisuels ou de radio qu'on règle des questions qui sont des questions de justice. La justice a besoin, au fond, d'un peu de silence, pas de surmédiatisation, et elle a besoin de contradictoires.
Donc il ne fallait pas faire cette enquête?
Non, attendez, je n'ai pas dit ça. Mais que la justice ne peut pas être sous le feu médiatique permanent. Je pense qu'on a déjà des tas d'expériences dans ce domaine comme dans d'autres où la surexposition médiatique ne rend pas une justice sereine. Il faut que la justice puisse passer. Je trouve très bien qu'à chaque fois, désormais, on déclenche une enquête pour voir si les faits sont bien prescrits, s'il n'y a pas des possibilités. Et puis vous me permettrez d'aller plus loin sur le sujet, en revanche. Parce qu'au-delà qu'on ait dit ces choses-là, et le fait qu'on ne rentre pas, pour moi, je pense, dans le débat public et médiatique sur les affaires personnelles, en tout cas individuelles. Il me semble que ce qui est frappant, y compris dans les témoignages qu'on a vus sur France 2 jeudi, qui était à la fois très émouvant et très bouleversant, c'est que toujours le même phénomène est à l'œuvre, globalement, je parle. C'est une forme d'omerta qui règne, un sentiment de culpabilité où, au fond, il y a une espèce de force de la puissance masculine dans ce domaine-là qui fait qu'on intériorise... on extériorise peu une force d'abus de pouvoir.
Mais vu ce que vous dites, vous n'avez pas le sentiment que l'exécutif a trop protégé Nicolas Hulot?
On a toujours été... Non, ce qu'il faut protéger, c'est le processus judiciaire. C'est ça qui est important. Et le processus judiciaire, il appelle le contradictoire. D'abord, le respect et l'écoute de la parole de la victime. Et il faut écouter la parole de celle... en l'occurrence de celles qui ont des choses à dire dans ce domaine, et après il faut que la justice passe, il faut qu'il y ait du contradictoire. Et donc il faut toujours respecter ça, ça peut pas être sur un plateau de radio ou un plateau de télévision. Mais en revanche, je vois bien les phénomènes qui sont toujours à l'œuvre, et moi je voudrais saluer le courage de ces femmes, qui parfois d'ailleurs très tard dans le processus, et certains même leur reprochent, mais non, il faut saluer cette parole qui est une parole libératrice. C'est heureux qu'enfin cette parole puisse se libérer. Ça permettra, je pense aussi, à chacun d'entre nous d'avoir un regard différent, parce que ce qui est frappant, c'est celles qui disent dans ces témoignages: j'ai pas voulu dire parce que je me suis dit il est trop puissant. Et ça, c'est quand même un problème terrible dans une société comme la nôtre et une société démocratique comme la nôtre.
Merci à vous, Marc Fesneau, ministre des Relations avec le Parlement, invité de France Inter ce matin. Bonne journée à vous.